Merci. Vous avez à votre disposition deux feuilles de route qui sont imprimées recto verso chacune. Alors, la première des deux contient au recto, dans la colonne de gauche, un plan du décret Presbyterorum Ordinis, l'ordre des prêtres, qui nous retient donc aujourd'hui. Dans la colonne centrale, quelques notes manuscrites qui rappellent l'enseignement de Lumen Gentium et précisent des vocables utilisés et leur traduction. Et dans la colonne de droite, un résumé de la lecture que nous ferons ensemble du décret et tout particulièrement du chapitre 1er. Cette même feuille propose au verso un extrait du rituel des ordinations des prêtres. Il s'agit de la prière dite consécratoire, prononcée par l'évêque, laquelle suit immédiatement l'imposition des mains sur les ordinants. Alors, cette double démarche, l'imposition des mains par l'évêque et les prêtres présents et la prière consécratoire, eh bien, c'est cela qui constitue le rite essentiel de l'ordination, du sacrement de l'ordre. La seconde feuille reproduit au recto et au verso le texte du chapitre 1er du décret. Chapitre intitulé le presbytera, le mot vient du grec presbyteros, prêtre, le presbytera dans la mission de l'Église. Je souligne d'emblée, c'est intitulé le presbytera, l'ordre des prêtres, le ministère et la vie des prêtres, dans la mission de l'Église. Et j'ai inscrit quelques signes de subdivision, vous avez vu, lettre A, numéro 1, etc., qui nous aideront à la lecture. Au tableau, derrière moi, vous avez les étapes de mon exposé. Premièrement, les circonstances, ou la prise en compte d'une double interrogation posée à l'époque du décret au sujet des prêtres. En second lieu, le contenu du décret. Et je n'hésiterai pas à lire devant vous le chapitre 1er en accompagnant la lecture de quelques explications. Et enfin, troisièmement, j'ai choisi parmi les prolongements de ce décret le rituel des ordinations. Nous sommes le 7 décembre 1965. La quatrième session du Concile s'achève et le lendemain, c'est la clôture du Concile. Bien, ce jour-là, 7 décembre, le décret Presbyterorum Ordinis, l'ordre des prêtres, intitulé Décret sur le ministère et sur la vie des prêtres, est approuvé en dernière lecture par les pères du Concile. 2390 voix pour, 4 voix contre. Et cette approbation, soulignons-le, accompagne celle de l'ultime texte de Vatican II, à savoir la constitution Gaudium et Spes sur, je cite, l'Église dans le monde de ce temps. À la fin du Concile, cette constitution, l'Église dans le monde de ce temps, comme correspondant au début du Concile à la constitution Lumen Gentium, mystère, structure, sainteté de l'Église. Circonstances ou deux interrogations. Deux interrogations débattues en France et en Belgique notamment sont remarquablement intégrées par le décret. Et même cette intégration est un exemple d'une richesse doctrinale de Presbyterorum Ordinis qui, depuis sa parution, à mes yeux, ne cessera de se voir confirmée et utilisée. La première interrogation, et nous allons les parcourir toutes les deux ensemble, la première interrogation surgit au cours du Concile lui-même, parmi les prêtres notamment. Je viens d'évoquer Lumen Gentium, précisément l'ecclésiologie Lumen Gentium, se demandait-on, valorise l'épiscopat, je vais le rappeler, valorise l'épiscopat et le laïcat. Est-ce que nous n'y trouvons pas une relativisation du presbytérat, de l'ordre des prêtres? La seconde interrogation, lancinante, parcourt les années antérieures au Concile. Dès les années, je vais y revenir, les années 27, 45, après-guerre. Elle est suscitée tout particulièrement par le milieu ouvrier, la masse ouvrière, la classe ouvrière, tout à fait, milieu tout à fait étranger à l'Église. D'où la question entre les prêtres. La mission n'est-elle pas devenue plus urgente que le culte auquel les prêtres sont ordinairement, habituellement, régulièrement voués? Reprenons ces deux interrogations. La première, un retour à Lumen Gentium nous sera utile. Rappelons-nous brièvement, le chapitre 3 concerne la hiérarchie de l'Église. On parle de l'épiscopat, les évêques, le presbytérat, les prêtres, le diaconat, les diaconats que la Constitution à cette époque-là souhaite voir restaurer après un abandon qui remonte au Moyen-Âge. Comme restaurer comme un, je cite, un degré permanent de la hiérarchie. Après le chapitre 3, le chapitre 4, c'est lui qui traite du laïcat. Et nous avons vu, en particulier avec Sœur Noël, qui nous a présenté la Constitution, que les deux chapitres sont à saisir ensemble, qu'ils correspondent entre eux. Cela étant rappelé, abordons la question posée et les prêtres dans Lumen Gentium, et faisons-le en deux étapes. Première étape. Avant d'explorer, donc au chapitre 3 et 4, la relation entre la hiérarchie et le laïcat, Lumen Gentium confesse la réalité une et normative, pour ainsi dire, de l'Église, avant la distinction posée, l'unité de l'Église, chapitre 1, chapitre 2, mystère de l'Église, l'Église au cours de l'histoire. Et au chapitre 2, l'Église est désignée notamment comme corps du Christ, temple de l'Esprit, peuple de Dieu. Et, en vertu du sacerdoce du Christ, dont l'Épître aux Hébreux nous dit « Il est notre unique grand prêtre », l'Église tout entière du Vatican II, tout entière, par la grâce du baptême qui incorpore les fidèles au Christ, l'Église tout entière est un peuple sacerdotal. En vertu du Christ, grand prêtre, en latin sacerdos, l'Église tout entière est un peuple sacerdotal. Demandons-nous, que peut, à la lumière principalement de l'Épître aux Hébreux, que peut signifier tout d'abord le sacerdoce du Christ, auquel nous rappelle Vatican II, mais après l'Épître aux Hébreux, et après Saint-Pierre, et après Saint-Paul, nous verrons, nous rappellerons dans Presbyterorum Auditis des références. Que signifie le sacerdoce du Christ, auquel communie, par l'action du Christ lui-même, tous les membres de l'Église, puisqu'on dit que l'Église est un peuple sacerdotal. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle d'abord que les prêtres de l'Ancien Testament exerçaient principalement deux fonctions. La première, intercéder, être des médiateurs, des intercesseurs auprès de Dieu en faveur du peuple. Ils prient Dieu pour le peuple. Et progressivement, dans la tradition d'Israël, c'est le peuple d'Israël tout entier qui devient sacerdotal. Il prie pour toutes les nations païennes. Et seconde fonction, des prêtres et progressivement du peuple sacerdotal, dont Israël déjà entrevoit la réalité, les prêtres offrent des sacrifices, et longtemps des sacrifices d'animaux, pour les péchés. Eh bien, le Christ, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, accomplit ce sacrifice de l'Ancien Testament, car non seulement il intercède pour Dieu en faveur du peuple, mais il introduit ses frères, les hommes, dans la vie divine. Il va les conduire jusqu'au Père en personne. Quant à la rédemption des péchés, il nous sauve par son mystère pascal, une fois pour toutes, c'est une expression de l'Épître, une fois pour toutes, du péché. Il est vraiment l'unique grand prêtre. Et premièrement, nous bénéficions de son sacerdoce. Grâce à lui, nous entrons dans la vie divine. Il nous sommes pardonnés de nos péchés. Et non seulement nous bénéficions de son sacerdoce, par le baptême et par notre vie chrétienne, mais en communion avec lui, nous formons tous un peuple de prêtres en faveur des hommes, au milieu des hommes. L'Église, peuple sacerdotal au sein des nations. L'Église à l'intérieur du monde de ce temps. Tel est, dit Vatican II, tel est, dit Lumen Gentium, le sacerdoce commun de tous les fidèles, au sein duquel alors se distinguent, se promeuvent mutuellement le témoignage des laïcs, et le ministère sacramentellement ordonné des prêtres ou encore le sacerdoce ministériel. Vous me direz, on parle de Lumen Gentium ou de Presbyterorum Ordinis? On parle de Vatican II et c'est par là que Presbyterorum Ordinis et d'autres thèses du Concile commencent toujours. Et nous devons faire attention, soit dit en passant, parce que souvent, à l'époque du Concile, et encore maintenant, on tend à confondre, à écraser l'un sur l'autre les chapitres 2 et les chapitres 3. Et on dira, c'est une église laïque. Oh ben non, regardez tout ce qu'on dit des évêques et les prêtres. Ah, deuxième étape, précisément. Je continue, hein, la question que j'avais signalée en commençant. En effet, le chapitre 3 de Lumen Gentium consacre 9 numéros, numéros 19 à 27, à l'épiscopat, aux évêques. 9 numéros pour les évêques. 1 pour les prêtres et 1 pour les diacres qui n'ont pas encore été restaurés. Pourquoi le Concile avait-il à accorder tant d'importance à l'épiscopat? Et ici, c'est le Concile de Trente qui va nous guider et qui continuera à nous guider dans Presbyterorum Ordinis. Pourquoi Vatican II devait-il accorder tant d'importance à l'épiscopat? Le Concile de Trente, 23e session, 15 juillet 1563. Justement, il parle des prêtres et pas des évêques. Mais reprenons un peu cette terminologie prêtre, sacerdoce, l'ordre des prêtres. Que signifie l'ordre des prêtres? On dira de quelqu'un qu'il est ordonné prêtre. On parlera d'une ordination sacerdotale. On parlera du sacrement de l'ordre. Toute cette variation de vocabulaire nous aide à percevoir ce que peut signifier précisément l'ordre. Tout d'abord, c'est un sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? C'est une réalité à la fois signifiée, elle a du sens, et effectuée, ce qui est signifié est véritablement réalisé, par le Christ Seigneur en personne. Dans son Église, certes, et avec son Église, et pour et par son Église. Mais, lorsqu'on parle de sacrement, nous visons une initiative personnelle du Christ Jésus en personne. Et on dira que le sacrement de l'ordre, ou l'ordination de prêtre, l'ordination sacerdotale, est précisément une initiative personnelle du Christ. Pour quelle raison? Pour quel agir? Le prêtre, gardons ce vocabulaire de l'ordination, le prêtre est ordonné, consacré, habilité. Je parle ici de l'enseignement du Concile de Trente, à célébrer l'Eucharistie et à réconcilier les hommes avec Dieu par le sacrement de pénitence et de réconciliation. C'est le pouvoir d'ordre que Trente professe solennellement au sujet des prêtres. La célébration de l'Eucharistie et du sacrement de pénitence, de même que celui des malades. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre. Mais comment, avant Lumen Gentium, considère-t-on, dans l'Église, et encore au Concile de Trente, et avec des discussions entre théologiens et liturgistes, comment considère-t-on le pouvoir d'ordre du prêtre sur l'Eucharistie, et le pouvoir de l'évêque, c'est sur quoi? Il n'a pas un plus grand pouvoir sur l'Eucharistie que sur le prêtre. Donc, on dira, l'évêque n'exerce pas un pouvoir d'ordre. Le pouvoir de l'évêque, la fonction de l'évêque, ne concerne pas l'ordre qui, nous venons de le dire, et ça reste vrai, est relatif au Christ et au sacrement de l'Eucharistie. Et on dira alors, ah, c'est un pouvoir de juridiction, un pouvoir juridique. Qu'est-ce à dire? Mais il organise l'Église. D'abord, son pouvoir concerne non pas l'Eucharistie, c'est-à-dire il est prêtre, donc il a le pouvoir de l'Eucharistie comme prêtre, mais comme évêque, son pouvoir est un pouvoir de juridiction. Ça concerne l'Église, l'organisation de l'Église, et aussi la vigilance sur la doctrine de l'Église. Tel est le pouvoir de juridiction de l'évêque. Garder intacte la foi et organiser le territoire ecclésial. Vatican II, avec Lumen Gentium, professe, et je reprends, je cite des extraits, professe la sacramentalité de l'épiscopat. Donc le pouvoir de l'évêque, ce n'est pas seulement relatif à l'Église, il y a une action du Christ. Considère dans l'épiscopat la plénitude du sacrement de l'ordre. Deuxième citation. Et enfin, troisième citation, le sacerdoce suprême. Lumen Gentium numéro 21. C'est une chose remarquable, cette profession. Vous me direz, mais pourquoi? Mais parce qu'en distinguant le pouvoir d'ordre et de juridiction, c'est l'Eucharistie et l'Église que vous gardez à distance. C'est le Christ et l'Église que vous gardez à distance. En revanche, en disant que l'évêque, l'épiscopat est la plénitude du sacrement de l'ordre et qu'il exerce le sacerdoce suprême, cela veut dire que Vatican II confesse, professe, enseigne une grande intimité entre le Christ et son Église, entre l'Église du Christ et le Christ. Entre, prenons la terminologie de saint Paul maintenant, entre le corps eucharistique du Christ, le pain et le vin transsubstantiés dans le corps eucharistique du Christ, mais aussi son corps ecclésial. C'est ainsi que saint Paul notamment définit l'Église. C'est le corps du Christ, le corps total du Christ. Unité du Christ et de l'Église, du corps eucharistique du Christ et de son corps ecclésial, ainsi que le ministère du prêtre et de l'évêque. Ce qui veut dire que je viens de mettre en avant l'épiscopat, puisque la difficulté des prêtres concernait bien ce que je vous ai dit, la mise en valeur de l'épiscopat et du laïcat. Mais non, si à présent on dit de l'évêque que ce qu'il fait à l'égard de son Église, il le fait au nom du Christ. C'est ça la sacramentalité. Ce qu'il fait sur l'Eucharistie, il le fait au nom du Christ. Ce qu'il fait vis-à-vis de l'Église, il le fait au nom du Christ. C'est ça la sacramentalité de l'épiscopat. Mais ça rejaillit. Cela rejaillit aussi sur les prêtres. On ne parlera plus seulement, comme le Concile de Trente, du pouvoir des prêtres vis-à-vis de l'Eucharistie, du corps eucharistique, mais aussi du corps ecclésial. Le prêtre doit se trouver au sein de l'Église comme le Christ se trouve parmi les siens, exerçant le ministère que l'Église veut exercer à l'égard de tous ses frères. Donc, ce ministère au service de l'Eucharistie et de l'Église est d'ordre sacramentel. Il représente une initiative du Christ en personne. La deuxième question que je vous signalais, la seconde interrogation, le prêtre, homme de la mission ou homme du culte? Question de l'identité du prêtre. Quelle est l'identité du prêtre? Quelle est-elle? Et au cours des âges, il y a différentes figures, différentes images, différents types qui se sont entrecroisés et qui finalement risquent de s'aliéner mutuellement. Et rapidement, de façon très schématique, je signale ces différents types qui risquent d'être étrangers l'un à l'autre, les uns aux autres. Reprenons la tradition du Concile de Trente que je viens d'évoquer. Et en particulier dans son assimilation dans l'Église française du XVIe et XVIIe siècle. Si vous insistez sur le Concile de Trente, vous direz que le prêtre est consacré au culte eucharistique. D'où l'importance de l'édification des églises, de la répartition des églises paroissiales et des paroisses. Et l'évêque sera évidemment, si vous gardez le pouvoir de juridiction, uniquement, il aura la charge précisément d'organiser le territoire diocésain. Et on parlera des prêtres diocésains, ou réguliers, ou diocésains, ou séculiers, ils sont dans le siècle. Il n'y a pas que les paroisses, il n'y a pas seulement que le culte des chrétiens, il y a également une présence de l'Église dans d'autres milieux, en particulier au long des siècles, le milieu hospitalier, les hôpitaux, le monde de la santé. Et les milieux de l'éducation, les écoles, les collèges, le monde de l'enseignement. Et là, vous verrez, vous trouverez, de façon très humble, des religieux et des religieuses, religieuses particulières dans le monde hospitalier, et plutôt dans le monde de l'enseignement, parmi les religieux, des prêtres. Et vous avez, après les prêtres diocésains ou à côté, les prêtres dits religieux ou réguliers, qui ont une règle de vie religieuse. Bon. Moment plus critique, c'est la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle que j'évoquais en introduisant ces circonstances. L'athéisme, le milieu ouvrier du XIXe et XXe siècle, dont on ne peut pas dire non seulement qu'il n'est pas encore évangélisé, comme dans les missions étrangères, qui n'est pas évangélisé au sein de nos pays, France et Belgique. Un livre au titre percutant, 1943, de l'abbé Godin, France, pays de mission, une interrogation. Et dans les années 1925, en Belgique, c'est la fondation de la jeunesse ouvrière chrétienne par Joseph Cardenne, et ça passe rapidement en France. Alors voilà le développement de l'action catholique, avec ce principe remarquable et qui a été repris et enseigné par Pie XI, on parle de l'évangélisation du milieu par le milieu. Ce sont les jeunes ouvriers, dit Cardin, qui évangéliseront les jeunes ouvriers. On voit se développer, et dans le Concile, ça sera un fruit cueilli, on voit de se développer ici véritablement l'apostolat des laïcs, l'engagement des laïcs. Mais curieusement, on parlera de la mission des laïcs. Et on se demandera quelle insertion pour les prêtres. Ils peuvent être des aumôniers de groupe ou doivent-ils s'insérer davantage dans le milieu? dans les années 50, c'est la question des prêts ouvriers. D'où, je résume cette fois-ci, cet aperçu de la façon où je l'avais introduit, le prêtre, est-ce qu'il est l'homme du culte ou bien, de façon plus urgente, l'homme de la mission auprès de ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Et encore, à cet endroit-là, il y a encore une question, encore une opposition. Cette mission, elle doit supposer une évangélisation directe, immédiate, ou bien elle suppose une lente insertion dans le milieu, comme un Charles de Foucault est un exemple. La grande écoute de Charles de Foucault dans ces années-là. Vous me direz, quand parlera-t-on de presbytérum ordinis? Mais je crois que nous allons, à l'intérieur même du texte de presbytérum ordinis, assez immédiatement découvrir tous ces éléments mis en place. Et d'une certaine façon, pédagogiquement, je pourrais dire l'inverse. C'est en lisant presbytérum ordinis que j'ai été capable aussi de mettre en place tant et tant de renseignements ou de souvenirs de cette époque des années 50-60. Le moment est venu donc de passer à presbytérum ordinis. Et je vous ne l'avez pas sur les feuilles, je vous lis tout d'abord un résumé du préambule de ce décret. Le Concile doit rappeler à tous l'importance de l'ordre des prêtres dans l'Église. Cet ordre joue, dans le renouveau de l'Église du Christ, un rôle essentiel, mais aussi, je cite, de plus en plus difficile. D'où l'utilité de ce décret qui parle des prêtres de manière plus détaillée et plus approfondie. Il concerne tous les prêtres. Les religieux pourront faire les adaptations qui conviennent. Tel préambule. Il concerne tous les prêtres. Les prêtres, je poursuis des extraits de ce préambule, participent au ministère du Christ, qui de jour en jour, l'Église maintenant, qui de jour en jour construit ici-bas l'Église, le Christ donc construit l'Église pour qu'elle soit le peuple de Dieu, corps du Christ, temple du Saint-Esprit. La situation pastorale et humaine a subi de profonds changements, dit le Concile. Il fallait aider les prêtres plus efficacement dans leur ministère et mieux prendre en charge leur vie. C'est pourquoi ce Saint-Concile déclare et décide ce qui suit. Et vous avez le plan, dit dès le préambule. Le ministère des prêtres et la vie des prêtres est considéré en fonction du ministère. Et avant ce chapitre 2 et 3, donc, les plus longs, bien sûr, qui concernent le ministère des prêtres et la vie des prêtres, nous avons ce chapitre introductif en deux numéros, chapitre 1, dont j'ai déjà mentionné le titre, le presbytérat dans la mission de l'Église. Donc, je vous invite maintenant, à présent, à avoir sous les yeux ce texte du chapitre 1er. Et sur la première feuille, donc, avec à gauche le plan du décret, vous avez à droite, au milieu, à droite, un résumé numéroté de ce chapitre 1, numéro 2. Le petit A, les lettres correspondent sur les deux feuilles. Donc, chapitre 2. Intitulé, proposé par l'éditeur, la collection Nam Sanctam, La nature du presbytère. Numéro 2, donc. Le petit A commence par professer le sacerdoce de tous les chrétiens. Et c'est le Seigneur Jésus, notre grand prêtre, qui en est l'auteur. Je lis. Le Seigneur Jésus, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est une référence à Jean 10, 36, qui sera très fréquente dans les textes du Concile, en particulier Lumen Gentium et Presbyterorum Ordinis, au sujet de toute l'Église, certainement, mais très particulièrement au sujet des évêques, des prêtres. Je reprends la lecture. Le Seigneur Jésus, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, fait participer tout son corps mystique à l'onction de l'Esprit qu'il a reçu. En lui, tous les chrétiens deviennent un sacerdoce saint et royal. Plus loin, il n'y a donc aucun membre qui n'ait sa part dans la mission du corps tout entier. Chacun d'eux doit sanctifier Jésus dans son cœur, la sanctification de Jésus, la vie intérieure, la vie spirituelle, et rendre témoignage à Jésus par l'esprit de prophétie. Petit b, nous avons alors une présentation du sacerdoce ministériel sacramentellement ordonné. Le même Seigneur, voulant faire des chrétiens un seul corps où tous les membres n'ont pas la même fonction, Romains 12, 4, a établi parmi eux des ministres qui, dans la communauté des chrétiens, seraient investis par l'ordre du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice et de remettre les péchés, et exerceraient publiquement pour les hommes, au nom du Christ, la fonction sacerdotale. Bien, ici, vous avez un résumé du Concile de Trente, dont je vous ai parlé il y a peu. Et vous n'avez pas ici la distinction entre évêque et prêtre, elle vient justement après. Il y a d'abord la première affirmation que il y a ces ministres qui ont le pouvoir sacré d'offrir le sacrifice eucharistique et de remettre les péchés. C'est ce que le Concile de Trente dit donc des prêtres. Petit 2, nous passons alors maintenant à la distinction entre l'ordre du presbytérat et l'ordre de l'épiscopat. Il nous est dit, reprise de Lumen Gentium, que les prêtres sont les collaborateurs des évêques. Je poursuis la lecture. C'est ainsi que le Christ a envoyé les apôtres comme lui-même avait été envoyé par son Père. Encore la même idée, dans l'autre sens. Le Père a sanctifié et envoyé. Jésus a été envoyé par son Père. Puis il envoie les apôtres, Jean, encore Saint Jean, cette fois au chapitre 20. Puis, par les apôtres eux-mêmes, il a fait participer à sa consécration et à sa mission, à sa sanctification et à sa mission et à son envoi, leurs successeurs, les évêques. Et la charge du ministère des évêques a été transmise aux prêtres à un degré subordonné. Ceux-ci sont donc établis dans l'ordre du presbytérat pour être les collaborateurs de l'ordre épiscopal et lui permettre d'accomplir comme il le doit la mission apostolique confiée par le Christ. Donc, en résumé, sacerdoce de tous les chrétiens, à l'intérieur et au service et pour promouvoir ce sacerdoce, des ministres est synonyme de diaconus et de serviteur, servus, des serviteurs, des ministres qui, dans la communauté des chrétiens, donc, auraient le pouvoir de l'ordre. Et à l'intérieur de ce pouvoir de l'ordre, ensuite, distinction entre les prêtres et les évêques. Mais encore, troisièmement, avec cela, nous n'avons pas encore dit la relation ni des prêtres, les prêtres, au Christ lui-même en personne. Nous avons dit que le Christ a envoyé des apôtres, les apôtres ont des successeurs, les évêques ont comme collaborateurs les prêtres. En quoi l'ordre est-il un sacrement? en quoi un prêtre ou les prêtres ici et aujourd'hui ont-ils une relation immédiate du Christ qui, par eux, veut agir en personne? C'est cela la sacramentalité de l'ordre. C'est cela que dit le numéro 3. La fonction des prêtres, je lis, en tant qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, participe à l'autorité A, par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. C'est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s'il suppose les sacrements d'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie, mais singulièrement le baptême, est cependant conféré au moyen du sacrement particulier qui, par l'onction du Saint-Esprit, les marque d'un caractère spécial et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir. Et ici, je propose une autre traduction que celle-ci, traduction plus littérale, capable d'agir en la personne du Christ tête. In persona Christi capitis. J'y reviendrai. En tout cas, vous avez ici aussi une reprise du Concile de Trente, et en particulier au sujet du caractère. Que signifie ce caractère? Un sacrement particulier qui est la marque d'un caractère spécial. Le mot caractère, ce n'est pas une question de tempérament ici. C'est la translittération d'un mot grec antique, de l'antiquité chrétienne, caractère, qui veut dire en fait un sceau, une marque indélébile, un cachet, une impression, un cachet de cire, qu'on peut dire, mais une marque dans la pierre. C'est indélébile. Et une fois qu'on reçoit ce cachet, on l'a pour toujours. Et la chose n'est pas réitérée. Donc vous êtes marqué, si vous voulez. Le caractère, c'est d'être marqué par le Christ. Vraiment. Et il y a deux sacrements qui ont un caractère dans la vie chrétienne. Le baptême et le sacrement de l'ordre. Quelqu'un qui est baptisé, le Christ s'engage vis-à-vis de celui qui est devenu son frère. Alors bien sûr, c'est l'Église qui, en incorporant et le baptisé lui-même, c'est l'Église qui incorpore un nouveau membre, et c'est un membre, s'il est adulte, c'est un membre, c'est quelqu'un qui demande d'être incorporé à l'Église, mais c'est pas seulement l'Église qui s'engage, c'est un sacrement, c'est le Christ dans l'Église qui s'engage à l'égard de la personne. Voilà, le baptême, nous sommes marqués par le Christ. Le Christ s'engage. Et dans l'ordination sacramentelle, dans l'ordination sacerdotale, le Christ s'engage, une fois pour toutes. Et on ne peut perdre ce caractère, et on n'a pas besoin non plus, on ne peut pas non plus le réitérer. Alors, le mot caractère vient du Concile de Trente. On a parfois reproché à Vatican II d'utiliser très rarement le mot caractère. Et en effet, il vient ici, il ne vient pas dans l'Humen Gentium, il ne vient pas dans les textes suivants. En revanche, et nous avons le mot également ici, en revanche, est très courant, très présent, le mot, le substantif configuration, ou le verbe ici, les configure. En fait, c'est un synonyme du caractère, qu'il soit baptismal ou sacerdotal. Mais configuration, plus que caractère, qui, caractère, marque quand même très fort l'aspect objectif. Configuration semble insinuer, ou pas seulement insinuer, mais espérer, demander, et on le verra dans la suite du texte, davantage une croissance dans notre union au Christ. Qui est marqué par le caractère du baptême est invité à vivre jour après jour de sa vie, de la grâce de ce baptême. De même, qui est marqué du caractère sacerdotal ici, pour le ministère sacramentellement ordonné, est invité à vivre jour après jour en configuration avec la grâce objective qu'il a reçue par l'ordination. Et là, vraiment, cet aspect de croissance de la grâce, cette configuration, nous la découvrirons également dans d'autres numéros, en particulier les numéros 4, 5, 6 sur la triple charge et les numéros 12, 13 et 14 sur la sanctification du prêtre. Il n'est pas dit la sainteté du baptisé, du prêtre, mais la sanctification. Petit c, vient à présent la mention ou la description du ministère sacerdotal. Rappelez-vous le débat, le prêtre, homme de l'évangile ou le homme du culte? Et avant Lumen Gentium à propos de l'évêque, l'évêque lui il organise le territoire ecclésial. Alors voilà un apport remarquable de Vatican II, c'est pas seulement de Presbyterum Ordinis. Vous trouvez ça dans les textes sur l'épiscopat et aussi sur le laïcat. Mais vous l'avez dit, vous l'avez proclamé franchement et nettement, et je dirais de façon privilégiée, à propos du ministère des prêtres, à savoir, il s'agit de l'évangélisation. Il s'agit de la sanctification par le sacrement et en particulier l'Eucharistie. Et il s'agit de la conduite du peuple de Dieu dans, pour qu'il soit véritablement une communion vécue dans l'Église et en faveur de tous les hommes. C'est ce que on appellera et que j'appellerai volontiers la triple charge, que j'ai d'ailleurs indiqué à nouveau sur le plan du décret. Alors, je lis à partir du milieu du texte. Bon, le texte commence par, d'une certaine façon, rappeler ce qui était courant, à savoir la première annonce de l'Évangile, c'est l'évêque qui est responsable. Et le prêtre, lui, célèbre l'Eucharistie. Vous avez cela, l'annonce apostolique de l'Évangile. Apostolique, je suppose, qu'il y a une référence à l'évêque, puisqu'il rassemble le peuple de Dieu. Et puis, mais c'est surtout par le ministère des prêtres, grâce au sacrifice eucharistique du Christ, que le peuple de Dieu est sanctifié. Mais après, la réflexion devient extrêmement rigoureuse. Et je trouve que nous avons ici un texte splendide, et je crois qu'il a encore en lui des virtualités pour le ministère sacerdotal. Je lis lentement et en soulignant les mots. C'est à cela que tend leur ministère, le ministère des prêtres. Donc. C'est là qu'ils trouvent son accomplissement. Commençant par l'annonce de l'Évangile, il tire sa force et sa puissance du sacrifice du Christ, l'Eucharistie. Et il tend, et alors nous avons ici une citation de saint Augustin dans le De Civitate Dei, la cité de Dieu, et il tend à ce que la cité rachetée tout entière, c'est-à-dire la société et l'assemblée des saints, soit offerte à Dieu comme un sacrifice universel par le grand prêtre qui est allé jusqu'à s'offrir pour nous dans sa passion, pour faire de nous le corps d'une si grande tête. La description suit une progression ordonnée. Le ministère commence par l'évangélisation. Il tire sa puissance du sacrifice du Christ. Il tend à l'édification de la cité de Dieu. Début, moyen, fin. Et en ce sens-là, l'Eucharistie est véritablement le sacrement, le lieu de passage de la parole évangélisatrice à la communion des hommes avec Dieu. Vécu dans l'Église et que l'Église tâche de transmettre à la cité humaine tout entière. Et le Concile insiste dans la suite, en reprenant l'idée de la fin, donc le début, l'évangélisation, le moyen, le milieu, l'Eucharistie, la fin. Vraiment, c'est la communion ecclésiale. Et le texte reprend, mais la fin, oui, je relis le texte, que les prêtres poursuivent dans leur ministère et dans leur vie, c'est de rendre gloire à Dieu le Père dans le Christ, et cette gloire, c'est l'accueil conscient, libre et reconnaissant des hommes à l'œuvre de Dieu accomplie dans le Christ. C'est le rayonnement de cette œuvre à travers toute leur vie. Alors là aussi, avec les questions que je vous disais au début, le culte, l'évangélisation, sur le pouvoir de l'ordre, la mission de l'Église tout entière. Voyez que rendre gloire à Dieu ici, c'est permettre aux hommes d'accueillir l'œuvre de Dieu. Il y a un lien qui est proposé, qui est affirmé ici, entre ce que j'évoquais tout à l'heure, en disant l'importance et la répétition continuelle dans nos textes ici, consécration pour la mission. Le Père consacre Jésus pour l'envoyer en mission. Jésus loue son Père en se mettant au service des hommes. Jésus est au service des hommes pour louer son Père et lui donner des fils comme lui. Je reprends le texte où je l'ai interrompu. Dans les différents ministères exercés au service des hommes, les prêtres contribuent à la fois à faire grandir la gloire de Dieu et à faire avancer les hommes dans la vie divine. Et alors vous avez en deux mots une perspective sur ce qu'on peut appeler le temps de l'Église, de la résurrection à la fin des temps. Tout cela découle de la Pâque du Christ. Tout cela s'achèvera dans le retour glorieux du Seigneur quand il remettra la royauté à Dieu le Père. À propos de l'expression de saint Augustin, l'Église comme corps du Christ et le Christ comme tête de ce corps, une si grande tête, dit-il. La relation de la tête et du corps, ou de l'époux et de l'épouse, est notamment déployée par un saint Paul. Je reviens à l'expression au numéro 3. Les prêtres agissant en la personne du Christ tête. In persona Christi capitis. L'expression en la personne du Christ a été utilisée par Lumen Gentium au sujet des prêtres, et cela concernait, semble-t-il, l'Eucharistie. Ici, c'est dit de façon beaucoup plus générale. Et il y a l'ajout tête. Autrement dit, on peut voir avec cette symbolique paulinienne mise ici en valeur une relation justement entre, disons, le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal. Le prêtre représente à l'intérieur du corps tout entier de l'Église, représenté par les fidèles qui, notamment, célèbrent l'Eucharistie, et dans cette célébration de l'Eucharistie, mais dans toutes les activités nous pouvons exercer ensemble au nom de ce sacerdoce du Christ, le prêtre représente l'initiative individuelle, personnelle du Christ Jésus en personne. C'est la tête. Ou, l'autre symbolique paulinienne, c'est l'époux. Et il représente cette initiative individuelle parce que sinon, le corps pourrait, pour ainsi dire, engloutir cette initiative personnelle. Non, c'est Jésus ressuscité en son corps et en son âme, un d'entre nous qui est aussi le Seigneur, hein, édifiant son corps total et aimant l'Église et l'humanité comme un homme aime son épouse. C'est la symbolique de Paul, Saint Paul, la tête et le corps, l'époux et l'épouse. Nous avons dans l'intérieur de cette symbolique une représentation, si vous voulez, de la relation entre le prêtre et l'Église, ou plus exactement, le prêtre et les fidèles de l'Église. D'où l'importance, non seulement de dire du Christ tête, ou si on considère l'Église comme l'épouse du Christ époux, ou encore du Christ pasteur à l'égard de ses brebis, hein, ou de grand prêtre à l'égard de ses frères et ses sœurs, etc. Vient alors le numéro 3. Qu'apporte le numéro 3 au numéro 2 ? Le numéro 3, par rapport au numéro que nous venons de lire, ajoute que c'est au cœur de la fraternité humaine qu'est rendu le témoignage du Christ. Différentes spiritualités issues du Concile de Trente, notamment, insistaient précisément sur la consécration du prêtre, la mise à part du prêtre. Consécration. J'ai dit l'importance, je la répète encore, sur le lien entre consécration et mission. Cette mise à part, cette consécration a en vue la mission. La mission, évidemment, auprès de ceux que le Christ va rejoindre. Alors, il est remarquable que dans l'Épître aux Hébreux, nous avons un double mouvement dans l'action dite sacerdotale du Christ. On souligne souvent, on pourrait dire c'est le plus important, le second. Le Christ veut faire de nous des fils de son Père. Il nous conduit jusqu'à son Père. Nous devenons, grâce à son sacerdoce et à son, son mystère pascal, des enfants de Dieu. Mais avant, l'Épître aux Hébreux insiste sur le fait que le premier geste sacerdotal de Jésus, qui est le Fils de Dieu de toute éternité, c'était de se faire l'un de nous. C'était, en d'autres termes, l'incarnation du Verbe. Ou c'était, selon l'expression magnifique de l'Épître aux Hébreux, il n'a pas rougi de nous appeler ses frères. Son premier geste, c'est de dire « Vous êtes mes frères ». Et c'est ainsi, et c'est pourquoi, et c'est en vue de cela que j'essaie de faire de vous des fils de Dieu. Mais, et voilà que ce qui est enseigné ainsi par l'Épître aux Hébreux est ici appliqué aux prêtres. Et rappelez-vous encore les circonstances dont je vous parlais. On a déjà répondu. Est-ce que c'est le culte ou l'évangélisation ? L'évangile, le culte et la conduite du peuple de Dieu. Ah, conduite du peuple de Dieu. Est-ce qu'il faut est-ce que le prêtre va s'insérer dans différents milieux ou bien est-ce qu'il est séparé pour rester vraiment tout entier à la louange du Père dans le culte? Et la louange du Père, c'est de servir les hommes. Et vous avez, puisque le premier geste sacerdotal du Christ prêtre, c'est d'être frère parmi ses frères, le prêtre sera frère parmi ses frères. Et nous pouvons lire maintenant et comprendre mieux l'insistance de ce numéro 3. Pris du milieu des hommes et établi en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. C'est une citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Les prêtres vivent avec les autres hommes comme avec des frères. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Fils de Dieu, homme envoyé aux hommes par le Père, il a demeuré parmi nous, il a voulu devenir en tout semblable à ses frères, à l'exception du péché, encore l'Épître aux Hébreux. Et il a été imité par Saint Paul, etc. Alors, voilà la relation à nouveau entre consécration, mission, ordination, ministère, annonce du Christ et adaptation à ceux à qui l'annonce doit être apportée. Je lis, par leur vocation et leur ordination, les prêtres de la Nouvelle Alliance sont d'une certaine manière, oui, mis à part au sein du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour être séparé de ce peuple ni d'aucun homme quel qu'il soit, c'est pour être totalement consacré à l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Et numéro 3 termine en disant que pour y parvenir, il y a quelques qualités qui jouent un grand rôle, notamment celles qui concernent les relations humaines. Je vous ai annoncé que nous passerions le temps de la leçon, après avoir abordé les circonstances, à lire ensemble ce chapitre 1, les numéros 2 et 3. Et en 2 minutes, je vous signale, à partir de ce que nous avons vu, comment ce que nous avons vu précisément est déployé, monnayé, et alors n'hésitez pas à prendre le temps de le lire, et vraiment monnayé dans ce qui suit. Voyez les numéros 4, 5 et 6, c'est la triple charge. La parole, l'Eucharistie, chef du peuple de Dieu. Donc je suis au plan. Chapitre 2, numéros 4, 5, 6. C'est la triple charge. Les numéros 7, 8, 9, ce sont les relations des prêtres et des évêques, des prêtres entre eux, tous les prêtres entre eux, coopération entre eux, et la vie des prêtres avec les laïcs. 10 et 11, la répartition des prêtres et le souci des prêtres pour la vocation sacerdotale. Il nous est dit notamment à propos de la répartition des prêtres, que tous les prêtres, où qu'ils soient, doivent être attentifs à l'Église universelle. Et le texte ajoute, et des règles d'incardination et d'excardination seront revues. Donc, des évêques peuvent envoyer des prêtres de leur diocèse dans un autre diocèse qui en manque. Et c'est élaboré ici. Et on demande évidemment, et on dit évidemment, que les prêtres religieux et diocésains collaboreront, etc. On parle d'une fraternité sacramentelle entre les prêtres. C'est fort l'expression. Lumen Gentium parlait d'une fraternité spéciale entre prêtres, fraternité sacramentelle. C'est-à-dire, encore une fois, le Christ s'y engage. Alors, chapitre 3, la vie des prêtres. Vocation des prêtres à la perfection, 12, 13 et 14. Vous voyez, à nouveau, ici, il a parlé de triple fonction sacerdotale, c'est à nouveau la triple charge. C'est en exerçant consciemment, en communion avec le Christ, la triple charge, que les prêtres croîtront en perfection. Puis les numéros 15, 16 et 17, les vertus particulières dans la vie des prêtres, l'humilité, le célibat et la pauvreté. Et enfin, la troisième partie, là, les pères du concile ont regretté qu'elle avait dû être rédigée de façon un peu hâtive. Elle n'est pas très articulée, mais elle touche à des questions essentielles pour la vie des prêtres, le développement de la vie spirituelle, les études, la rémunération à assurer aux prêtres, la constitution de caisses communes et l'organisation de la sécurité sociale pour les prêtres. Et c'est ainsi, que c'est là-dessus que se termine le décret. Alors, vous pourrez lire la prière consécratoire et vous y trouverez... Et nous achèverons ainsi, comme dans toute grande prière d'ailleurs. En premier lieu, je lis le premier paragraphe, une invocation au Père en rappelant tous les bienfaits. Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Tu es la source de toute vie et de toute croissance et tu formes le peuple sacerdotal. Encore, vous voyez, la création. Tous les hommes, grâce à Dieu, sont fondés en dignité. Et il y a aussi de la part de Dieu une formation du peuple sacerdotal. Et pour cela, Père, tu suscites des ministres. Alors, deuxième partie, un rappel, une mémoire de la révélation de Dieu selon les Écritures. D'abord Ancien Testament et puis Nouveau Testament. 2a, déjà dans la première alliance, l'Ancien Testament. Il y avait des fonctions sacrées. 2B. Mais en ces temps qui sont ces derniers, alors là, le Nouveau Testament, tu as envoyé ton Fils Jésus, qui fait participer à sa mission des apôtres et des compagnons. Colonne de droite, troisièmement, aujourd'hui, encore, Seigneur, viens, accorde-nous. Et alors, c'est l'évêque qui parle. Les évêques qui disent la prière. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Puis j'ai mis en pointillé l'essentiel de la prière, qui doit, pour la, à supposer que pour une raison ou une autre, on ne puisse pas dire toute la prière, ces mots-ci doivent être dits pour la validité du sacrement, en pointillé. Puis après, vous avez la triple charge, le message de l'Évangile, la sanctification, la guidance du peuple de Dieu, et enfin la doxologie finale, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Merci. Thank you.